Et pas seulement dimanche dernier, parce que si vous avez bien entendu, il y a ce thème de l'héritage en Dieu qui revient régulièrement depuis à peu près qu'on est revenu du Mexique, et plusieurs fois on a partagé cela. Alors on ne fait pas une interrogation, mais on peut se rappeler un petit peu ce qui a été dit la dernière fois. Et Pierre nous avait partagé les différents héritages que nous avions, et on pourrait peut-être essayer de se rappeler un peu, sans peut-être prendre les notes. Je vois Manuela tout de suite sur son cahier. Mais est-ce que vous avez des souvenirs? Alors, c'est quoi? Allez, Pascal. Dieu lui-même. Nos enfants, héritage. La parole de Dieu, héritage. La terre, le salut. Oui. Le royaume, héritage. Et ce côté-là, il ne participe pas beaucoup, là. Hein, hein? C'est ça. Il parle doucement. Condamné, la condamnation. Hein? Un corps ressuscité, héritage. Il y a une onction suisse là, c'est plus lent. Hein? C'est chaque fois qu'il parle, il dit « Ah, je savais !» C'est ce que je voulais dire. La justice, voilà. Vous voyez d'autres choses? Je crois que vous avez tout dit là. Hein? Ça a fusé. Hein? La terre, ça a été dit. La terre, ça a été dit. Non, je crois que c'était bien, hein? C'était bien. Voilà. On a tout dit. Le royaume, ça a été bon, royaume de cieux, le royaume de Dieu. Voilà. Et j'aimerais avancer par rapport à l'héritage. Et cette notion que... Et là, je rebondis sur ce qui nous a été donné au Mexique. Hein, je vous avais dit que petit à petit, on vous redonnerait certains des trésors qu'on a reçus. Eh bien, j'aimerais en rebondir sur un. Et c'est cette notion de l'héritage. La façon de penser et d'agir, on doit... L'idée, c'est que Dieu veut nous faire penser et agir comme, en tant qu'héritier. Et parce que nous sommes dans une façon de travailler, souvent, je ne sais pas vous, en tout cas, moi, je reconnais souvent là-dedans, c'est-à-dire on a l'impression qu'il faut faire des choses pour recevoir. Hein, c'est toujours pareil. On dit, bon, si tu pries pas, tu ne peux pas recevoir. Si tu jeûnes pas, tu peux pas bien recevoir comme... Et on est toujours dans ce paradigme, dans cette idée qu'il faut faire des choses pour recevoir de Dieu. Eh bien ça, c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, vous allez voir. Mais l'héritage, on l'a. Et j'aimerais que on va voir dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, c'est que l'héritage que Dieu donne à chacun de nous, à l'humanité, le travail de son Saint-Esprit, un des ministères du Saint-Esprit, c'est de nous faire comprendre ce que nous avons reçu pour qu'on puisse se l'approprier. Donc, la Trinité a chacun un rôle particulier, chaque personne de la Trinité. Et le Saint-Esprit, il a ce rôle particulier de nous rappeler l'héritage que nous avons en Dieu, de nous en souvenir pour nous en approprier. Mais le but de l'héritage, et c'est là que la perspective de l'héritage, c'est pas qu'on ait l'héritage seulement, mais la perspective de l'héritage pour chacun de nous, dans toute la liste qu'on vient de se rappeler ici, c'est qu'on soit nous-mêmes une source pour les autres. C'est ça l'idée de l'héritage. C'est qu'on devienne nous-mêmes une source pour les autres, pour la bénédiction des nations et des autres. L'héritage, c'est donc pas pour nous la finalité, mais la finalité de l'héritage que Dieu nous donne, c'est pour que nous-mêmes, on soit une source de bénédiction. Alors, dis à ton voisin, tu es une source de bénédiction. Hein, une source de bénédiction. Ça, c'est le but de l'héritage. Hein, faire de nous une source. Faire de nous une source. Hein, Oui. On utilise l'héritage et on devient une source. Imaginez, dans toutes les familles, c'est comme ça. Nos enfants, ils dépendent de nous. Donc, c'est souvent le mari, on travaille, hein, on a quelque chose qu'on amène à la famille, on soutient, on subvient aux besoins de la famille. Et puis, nos enfants, ils grandissent. Mais un jour, on aimerait que, et ça arrive, que nos enfants eux-mêmes subviennent à leurs besoins et aux besoins de leur famille. C'est ça l'idée. Donc, dans la famille, on apprend, si vous voulez, la famille, c'est la famille de Dieu. On apprend à grandir ensemble on se supporte, on se soutient les uns les autres, mais le but, c'est que petit à petit, on devienne nous-mêmes des soutiens et des sources pour les autres. Et il y a un grand bonheur à cela. Il y a un grand bonheur à cela. En fait, le bonheur, c'est de se rendre compte qu'on est une source de bénédiction pour les autres. Ça, c'est une des grandes clés du bonheur. Donc, voyez, l'héritage, pas seulement pour soi, mais le but du Père, c'est que nous-mêmes, on devienne source de bénédiction. Donc, l'objectif de Dieu, c'est toujours pareil, voilà ton héritage et toi-même, tu vas devenir une ressource pour les autres. Et quelque part, il y a, au niveau des héritages, il y a une synergie, quoi. Il y a une communication entre les héritages. Il est bien évident que quand quelqu'un reçoit quelque chose de Dieu au milieu de nous, qu'il a compris ce qu'il a reçu, eh bien, il est bien évident que ceux qui l'entourent, il y a une bénédiction qui est là. On est au bénéfice de l'héritage que tu as compris et que tu utilises. Tout le monde est au bénéfice de ça. Et ça, c'est important au niveau de cette notion du corps. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, l'héritage n'était jamais quelque chose d'individuel. C'est assez intéressant d'ailleurs. Aujourd'hui, bon, l'héritage, c'est telle personne. Dans l'Ancien Testament, l'héritage, c'est des familles. C'est des familles. C'est pas un individu. C'est des familles. Alors, l'héritage des tribus, l'héritage des clans. Et le but de l'héritage, c'est de le faire partager à la tribu, à la famille. Donc, on est rentré dans une notion de l'héritage un peu individualiste. Et dans toute la liste que Pierre nous a donnée la fois dernière, attention à comment on la prend, cette liste. On peut la prendre en tant que c'est pour moi, hein, c'est le royaume pour moi, c'est les fils pour moi. Attention, la notion d'héritage biblique, c'est l'héritage pour la famille de Dieu. Et plus largement, c'est pour le corps de Christ. Alors, une autre chose, on va voir dans l'évangile de Jean, si on peut prendre l'évangile de Jean ensemble, au chapitre 6 et au verset 28. Et là, il y a un verset fondamental pour mettre en valeur ce qu'on était en train de dire. C'est juste un verset, Jean, chapitre 6, verset 28. C'est les disciples qui viennent vers Jésus et qui disent « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Donc c'était des gens qui voulaient faire des choses. Ils ont vu Dieu agir, ils ont vu des miracles et ils disent à Jésus « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et on va souligner le faire trois fois. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire les œuvres de Dieu, hein. Alors ça c'est. Alors vous avez le mot travailler, vous avez le mot faire et vous avez le mot œuvre. Donc ça c'est typiquement humain ça. On voit Dieu agir, on dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comme toi? Et puis qu'est-ce que répond Jésus? Alors Jésus leur répondit, et c'est une réponse qui nous met en l'air parce qu'on ne comprend pas cette réponse, on a du mal. Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Nous, on est là, on dit, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Et Dieu nous dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Alors là, on est embêté, quoi. On aimerait faire des choses, et Dieu nous dit, c'est de croire qu'il faut. Vous voyez? Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bien sûr qu'il y a des œuvres de Dieu pour nous. La Bible dit qu'il y a des œuvres préparées d'avance pour chacun de nous. Mais le problème, vous voyez, c'est que je ne vais pas faire des choses pour faire ce que Dieu veut que je fasse, etc. Je fais des choses parce qu'il y a la foi. Vous voyez? Parce que je crois. Parce que j'ai vu quelque chose. C'est comme à Abraham, Dieu lui dit, regarde les étoiles, regarde le sable. Et Dieu dit, voilà, je vais donner une postérité. Et vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé à Abraham? Premier réflexe, il attend, il attend, il attend. Et au bout d'un moment, ça ne vient pas. Alors qu'est-ce qu'il fait quand ça ne vient pas? Il va essayer de produire lui-même. Il va produire lui-même une descendance. Et c'est comme ça qu'il a eu Ismaël. Il a provoqué, si vous voulez. L'héritage, il était donné. Mais le problème de l'héritage, c'est que cet héritage, il y a un temps aussi pour tout. Il y a des choses. Il est pour nous, l'héritage. Tout ce qu'on a lu tout à l'heure, tout ce qu'on se rappelait, c'est pour nous. Mais il y a des portions d'héritage qui ne sont pas immédiates. Mais Dieu les a données. Mais ce n'est pas immédiat. Et parfois, on veut provoquer nous-mêmes. C'est comme si, en fait, on croyait qu'on ne l'avait pas reçu. Alors, on fait des choses. Et c'est quand on fait des choses, attention, qu'on peut se planter. Et là, Abraham, excusez-moi, mais il s'est bien planté. Le père de la foi, ça nous encourage aussi. Parce que de voir des gens de cette carrure qui se plantent, ben on dit, ben, au fond, moi, tant pis, si je me plante une fois ou deux, c'est pas grave. Hein, et c'est pas grave, effectivement. Donc, attention à vouloir. Et les plus grands blocages dans la vie chrétienne, c'est quand on s'attend, on veut, par nos propres forces, on veut prendre ce que Dieu nous a déjà donné. Et à ce moment-là, il y a vraiment une œuvre qui est assez néfaste. Par exemple, Caïn. Caïn, le mot Caïn veut dire « je l'ai acquis ». Le mot lui-même, Caïn, veut dire « je l'ai pris, je l'ai acquis ». Et on voit chez Caïn, il veut faire des choses pour Dieu. Et la mentalité de Caïn, c'est de faire des choses. Et alors, quand il y a eu, quand il a fait sa récolte, il a porté la récolte, et Dieu dit, il ne l'a pas agréé. Et puis Abel lui avait compris qu'il n'y avait pas à faire. Mais il avait compris, Abel, que pour être pardonné, pour être en communion avec Dieu, il y avait besoin d'un sacrifice. Et Abel a offert un sacrifice. Et si on voit, ce n'est pas le but ce matin, mais on voit deux mentalités. La mentalité de Caïn, c'est faire des choses. Et Dieu n'a pas agréé. Dieu n'agrée pas nos œuvres. Nos œuvres ne nous rapprochent pas de Dieu. Voyez ? Mais Dieu, il agrée la foi. Il agrée la foi. Et une fois qu'il y a la foi, eh bien la foi, elle porte les œuvres. La foi, elle te porte à faire des choses. Tu comprends ? Donc le fondement de l'œuvre, c'est la foi, c'est croire. C'est pour ça les disciples disent, est-ce qu'il faut faire des choses ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et Dieu dit, il n'y a rien à faire, il y a à croire. Et quand tu crois, et quand tu as cette foi, eh bien les œuvres de Dieu se font au travers, dans la foi. Vous voyez, ça se fait dans la foi. Donc ça c'est important, ce verset est très très important. Nous nous retrouvons tous là-dedans, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi je dirais, il n'y a pas une semaine qui passe sans que, encore, j'ai eu encore un entretien là mercredi dernier avec, il n'est pas là pour, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'était vraiment ça. Et j'avais beau lui dire, mais écoute, c'est pas une question de faire, il y a d'abord une question de croire. Et ça c'est très important. Mais reconnaissons qu'on est un peu comme les disciples, hein, régulièrement. Et Dieu vous dit, voilà, je vais faire changer de paradigme. L'héritage, c'est pas dans le faire qu'on va le recevoir. L'héritage, on le reçoit dans la foi. On le reçoit dans la foi. Ça, c'est très, très important. Et donc, Jésus nous dit, en fait, c'est comme s'il nous disait aujourd'hui, si tu veux faire ce que je fais, il faut que tu crois ce que je crois. Si tu veux faire ce que je fais, il faut que tu crois ce que je crois. Alors, qu'est-ce qu'il croyait, Jésus ? Ben, il savait déjà qui il était. Ça, c'est très important. Il croyait en la foi de Dieu pour lui, quoi. Il se voyait comme quelqu'un comme le Fils de Dieu. Alors, cette conscience n'était pas encore très... On se demande si, en tant qu'homme, il avait une pleine conscience de qui il était. Mais quand même, il était bien dans ses baskets, on peut dire, hein. Il était bien. Il savait qu'il était envoyé de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es envoyé de Dieu ? Ça, c'est la question. Donc, tout est une question de foi. Est-ce que tu sais que tu es fils et fille de Dieu ? Donc, l'héritage, c'est croire d'abord. C'est croire. Et puis Jésus, il dit, moi je fais ce que je vois le Père faire. Il ne faisait pas des choses parce qu'il avait tout d'un coup une bonne idée. Tiens, je vais faire des trucs. Tiens, il y a des malades, ça serait une bonne idée de les guérir. C'est pas ça. Il voyait son Père qui guérissait, qui voulait toucher le monde, les perdus. Et alors il faisait ce que son Père faisait, quoi. Et ça, c'était pas une œuvre, vous voyez. Il coulait dans la volonté de Dieu. Il avait une telle relation avec son Père qu'il faisait ce que son Père faisait. Il le voyait faire. Donc l'héritage, c'est ça. Et maintenant, on va voir un texte, on va comparer. Aujourd'hui, c'est l'ascension, je vous rappelle. C'est pas rien. Et justement, en préparant ça, tout d'un coup, je suis tombé sur les textes de l'ascension qui sont directement liés avec la notion d'héritage. Et on va voir deux textes en particulier. On va commencer dans 2 Rois au chapitre 2, verset 10. C'est Élie avec la transmission avec Élisée. Élisée, le grand prophète, donc on est au chapitre 2. Et Élisée qui vraiment aimerait avoir ce que Élie avait. Ça, c'était vraiment... Il ne voulait pas le lâcher. Hein. Et quand Élie dit, bon là, je vais retourner vers Dieu, et Élie, il accrochait le manteau, il ne voulait pas le lâcher. Mais ce n'est pas parce qu'il a accroché le manteau d'Élie qu'il a reçu l'héritage. Qu'est-ce qui a fait qu'il a reçu l'héritage ? Et là, on va voir ce texte. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, alors Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. » Ils poursuivirent tous deux jusqu'au Jourdain. Et 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent, s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Ils passèrent tous deux à sec. Et lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » La double part, dans la Bible, c'était les fils aînés. Les aînés avaient une double part. Donc cette double part, c'est dire, voilà, je vais être comme un aîné, je vais prendre tout ça. C'est une question d'héritage ici. Hein. Et il est dit, si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela ne t'arrivera pas. Sinon, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Et comme il continue à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu se séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Puis il ne le vit plus, et saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis de Jéricho virent et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée, etc. » Donc voyez, qu'est-ce qu'on voit ici? Élie dit, « Si tu vois le manteau qui tombe, tu auras la double portion. » Voir dans la Bible, c'est synonyme de la foi. Voir égale la foi. Regardez dans l'Ancien Testament, par exemple, lorsque le peuple était malade, Aaron a levé sa verge, il suffisait de la regarder. Il suffisait de regarder à ce bâton d'Aaron et la plaie s'arrêtait. Donc ça, c'est la foi. Et la Bible dit, regarde à la croix. Alors, ce n'est pas regarder, contempler. C'est regarder, ça veut dire, aie foi dans l'œuvre qui s'est faite à la croix. C'est ça que ça veut dire. Donc, la vue dans la Bible, c'est la foi. Égale la foi. Donc, si tu vois le manteau, ça veut dire si tu vois l'héritage, si tu as la foi que ce manteau, il est pour toi, alors, il sera pour toi. Mais il faut le voir. Le voir, ça veut dire, avec les yeux de la foi, je vois l'héritage. C'est pour ça que c'est tellement important pour Abraham. Dieu lui dit, regarde le sable, regarde les étoiles. Parce que Dieu voulait apprendre à visualiser l'héritage. Et on a besoin pour ça d'imaginer. On a besoin de commencer à rêver. Tous les prophètes dans la Bible, c'était des hommes qui étaient capables d'imaginer les choses. Le pays était dans le chaos, mais Dieu leur a donné la capacité d'imaginer quelque chose de différent. Quand ils voyaient un désert, le prophète voyait une forêt. Et c'est parce qu'ils voyaient la forêt que le désert redevenait une forêt. À un moment donné, c'est ça. Donc la capacité de voir le manteau fait qu'ensuite on peut se l'approprier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Élisée, il voit le manteau, donc le manteau tombe. Il n'a pas ramassé le manteau d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a pris son manteau à lui et il l'a déchiré pour mettre l'autre manteau. Et souvent, on veut garder nos vieux manteaux, c'est-à-dire nos façons de faire d'avant, nos façons de penser. Et en même temps, on veut l'héritage de Dieu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'héritage de Dieu, il est dit dans Éphésiens, par exemple, apprenez à vous dépouiller et ensuite à vous revêtir. Donc, on se dépouille de notre façon de penser, faire, il faut faire des choses. Dépouille-toi de ça, regarde le manteau, revêt-toi de ce manteau. Et là, nous avons la notion de l'onction qui vient sur Élisée, et il fait les mêmes gestes qu'Élie, et il voit qu'il a la portion d'Élisée. Donc c'est une question de foi. Deux rois, deux, nous parlent de la notion de foi. Alors maintenant, regardez, on prend dans Actes des Apôtres, au chapitre 1. Actes des Apôtres, au chapitre 1, et c'est le chapitre pour aujourd'hui, parce que c'est le chapitre de l'Ascension. Et là, nous avons, comme par hasard, la même histoire. La même histoire. Alors, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, afin, après avoir souffert, il leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux, disant, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de nous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Et là, on voit après les disciples, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se réunir, comme Jésus a dit, ils vont prier et ils vont attendre ce que Dieu avait promis. Et qu'est-ce que Dieu a promis ? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans la Bible, me dit, c'est les prémices de l'héritage. La venue du Saint-Esprit, la Bible, dans plusieurs passages, qu'on ne va pas voir tout de suite maintenant, mais elle nous dit, c'est la preuve que l'héritage y vient. Donc c'est la première portion. C'est le Saint-Esprit qui va me faire comprendre l'héritage que j'ai. C'est le Saint-Esprit qui va m'aider à m'approprier cet héritage et à l'utiliser pour bénir les autres. Mais il a fallu que Jésus soit enlevé. Et de la même façon que Élie a été enlevé et Élisée a pris le manteau qui est tombé, de la même façon, nous chrétiens, à l'Ascension, on se rappelle que Jésus est monté au ciel, mais qu'il a laissé tomber le manteau. Et ce manteau, c'est le Saint-Esprit. Et qui est le gage, les prémices de vraiment tout l'héritage que Dieu a pour nous. Donc nous ne sommes pas appelés à être des Caïn, mais nous sommes appelés à être ces Abel qui ont compris qu'il y a un héritage pour nous et que cet héritage, ce n'est pas nos efforts, mais cet héritage, c'était la foi. Et la foi, c'était la foi dans la croix et dans cet échange qui a lieu à la croix. L'héritage, un mot presque synonyme, c'est l'échange. Dieu à la croix, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, donne-moi ta vie. Tu donnes ta vie et lui te donne la sienne. Donc l'héritage, c'est le donnant-donnant, si vous voulez. Tu donnes ta vie dans la foi et puis Dieu, tu reçois la sienne. Il y a un échange qui se fait à la croix. Et cet échange, c'est l'héritage. Et nous avons reçu pendant 2 jours... une équipe, enfin un couple qui vient d'Angleterre avec le ministère de Sozo, un ministère de guérison. Et bon, ils ont pu prier, on a passé 3 jours ensemble, ils ont pu prier pour nous, etc. Et une des choses que j'ai retenues dans leur façon de prier, c'était tout à fait ce qu'on dit là. Alors qu'à un moment, ils disent, ben voilà, t'es prêt à donner ça à Dieu ? Ok, alors tu le donnes. Et ensuite, ils disent, maintenant, demande au Seigneur qu'est-ce qu'il a en échange pour toi. Et cette notion de l'échange est vraiment importante. Demande au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu as en échange pour moi ? Je t'apporte ma souffrance. Montre-moi ce que tu as en échange pour moi. Je t'apporte mon impureté. Montre-moi ce que tu as en échange pour moi. Et c'est ça, l'héritage, c'est l'échange. Et l'échange, il se fait où ? Il se fait à la croix. C'est là. C'est pour ça que, en tant que chrétien, on revient régulièrement à la croix. La croix est un lieu d'échange. Ce n'est pas seulement un lieu où on dépose, mais c'est un lieu où l'on reçoit. Et on reçoit comment ? On reçoit par la foi. on reçoit par la foi. C'est comme dans la scène, hein, la sainte scène qu'on a prise, il n'y a rien de magique, mais Dieu dit, voilà, c'est par la foi. Donc la foi, c'est ce qui te fait prendre ton héritage. Pour ça, tout commence par là. Donc la question n'est pas faire des choses, mais avoir confiance, avoir confiance. Et vous savez, parfois on est là, on dit, oui, mais les hommes y coincent, etc. Moi, je me rappelle, au niveau de début des écoles chrétiennes, on se lamentait un peu au niveau des églises, on dit, mais ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Et puis Dieu a dit, maintenant, t'arrêtes. Tu bénis le corps de Christ. Dieu est suffisamment grand pour incliner les cœurs des gens. Occupe-toi de ce que tu as à faire. Moi, je m'occupe des autres. Vous comprenez? Et du coup, ça nous a enlevé toute parfois, l'amertume peut vite venir. L'Église ne me comprend pas. Ils ne comprennent pas la vision que j'ai au niveau des écoles. Ça. Et ça, ce n'est pas juste. Pour qu'on rentre dans l'héritage, il y a cette notion de faire confiance. Et voyez, j'ai une chose qui est très importante, c'est que la foi en Dieu, eh bien, j'ai remarqué, était tout à fait liée à la foi dans mes frères et sœurs. Ça, c'est... Il est impossible d'avoir la foi en Dieu quand on n'a pas une attitude de foi et de confiance envers les autres. Au-delà des échecs, au-delà des déceptions, faire confiance. En fait, c'est un style de vie, la foi. Souvent, on dit, moi, c'est la foi en Dieu. Mais attention, ta foi en Dieu, elle se mesure aussi dans la foi, dans la vie de tous les jours. La foi par rapport au travail. Je suis au chômage, j'ai pas de travail. Développe la foi. Je lutte contre la maladie. Développe la foi. Et vous savez, j'ai des problèmes relationnels. Et la foi dans cette personne que, eh bien, Dieu peut la toucher et que cette relation peut se restaurer. Et la foi dans l'Église qui, on a l'impression que parfois elle ne voit pas. Et la foi. Voilà. La foi, ce n'est pas vertical. La foi, c'est toujours vertical et horizontal. Et la foi, c'est aussi foi en toi. Avoir confiance aussi dans ce que Dieu t'a donné. Un minimum. Hein? Un minimum. Faire confiance. Faire confiance dans les talents que Dieu t'a donné. Faire confiance dans le lot que Dieu t'a donné. Il te fait confiance. Et la Bible, on parle beaucoup de Dieu, mon héritage. Mais est-ce que tu sais que toi, tu es l'héritage de Dieu? Ça, c'est important aussi. Alors, au niveau de cette parole, j'aimerais quand même vous lire plusieurs points. Au niveau de la notion d'héritage, nous sommes l'héritage de Dieu. Dans les Écritures, on trouve ça, et je vais terminer par là. On ne va pas aller très loin aujourd'hui. Mais la notion d'héritage de Dieu, Deutéronome 9, 26, je priais l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur et que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Psaume 33, 12, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Et Psaume 94, 14, car l'Éternel ne délaisse pas ton peuple, il n'abandonne pas son héritage. Vous voyez? Donc voilà ce que j'avais partagé ce matin. L'ascension, ça nous encourage à voir l'héritage. Et le Saint-Esprit qui est descendu à l'ascension, peu après l'ascension, eh bien, c'est parce que Jésus est monté que le Saint-Esprit est venu. Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille. Et les disciples ne comprenaient pas pourquoi Jésus devait s'en aller. Mais en montant au ciel, Dieu a déversé, a laissé son manteau. Et son manteau, c'est son héritage. Et le Saint-Esprit est celui qui va nous aider à comprendre l'héritage. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur, afin que nous comprenions la grandeur de ton héritage, la puissance qui est là dans ton nom. Voilà un peu l'héritage qui est pour nous. Alors soyons comme ces Élysées, hein, on accroche le Seigneur, et cet Élysée, il accrochait, mais Dieu dit, c'est qu'une façon de voir, si tu vois le manteau. Et ce matin, le Seigneur nous dit, est-ce que tu vois le manteau? Est-ce que tu vois cet héritage? Est-ce que tu vois cette onction du Père, de Jésus, qu'il t'a donné en héritage? Et Seigneur, nous voulons être dans la confiance, Seigneur. Nous voulons être dans la foi ce matin. Merci pour l'héritage varié que tu nous as donné. Seigneur, nous ne voulons pas être dans la crainte ce matin. Seigneur, ton amour bannit la crainte. Crainte de manquer, crainte de la maladie, crainte d'être seul. Toutes ces craintes, Seigneur. Parce que dans l'héritage, il n'y a pas de crainte. Dans l'héritage, il n'y a que des bonnes choses, Seigneur. Et cet héritage, ce n'est pas par la crainte qu'on peut se l'approprier, mais par la foi. Alors Seigneur, merci pour la foi que tu renouvelles dans chacun de nous. Et aide-nous aussi dans la foi les uns envers les autres. Seigneur Jésus, merci pour le manteau. Merci pour le manteau, Seigneur. Nous approprions cet héritage, Seigneur. Nous ne comprenons pas tout encore, mais ça fait plusieurs semaines, Seigneur, que tu nous rappelles cela. Alors, Seigneur, merci pour l'héritage, pour cette Église. Merci pour l'héritage, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'héritage qui est notre ville de Guebwiller. Et merci pour l'héritage de la France. Merci pour les nations qui sont notre héritage aussi, comme tu nous le montreras, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour l'héritage des écoles, de ce collège Daniel, de cette terre. Merci pour l'héritage que tu as, Seigneur, pour les nations francophones. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Prenons quelques instants pour eux. Comme Abraham, le Seigneur veut te montrer. Regarde, regarde ton héritage. Regarde ce que j'ai pour toi. Alléluia. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Les plus grosses bêtises qu'on fait, c'est quand on a peur de perdre un héritage. Alors on s'accroche et Dieu dit non. Non, aie confiance. Aie confiance. Alléluia. C'est souvent quand on lâche les choses que Dieu les rend. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Nous enlevons ce vieux manteau, Seigneur. Alléluia. Ce qu'il veut qu'on fasse, toujours faire. Et Seigneur, nous disons, nous croyons ta parole qui nous dit de croire. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc, je vous encourage à...